Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
8h14, c'est l'interview politique et je reçois le ministre des Comptes Publics. Bonjour Olivier Dussopt.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Une nouvelle agression contre les forces de l'ordre hier. Une policière municipale de 47 ans attaquée au couteau. Qu'a-t-elle ? Grièvement blessée par un individu radicalisé. Quelle réponse du gouvernement ?
D'abord une réponse de soutien et une réponse d'espoir. L'espoir que cette policière aille vite mieux. Nous savons qu'elle est blessée gravement, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Et c'est d'abord à elle que je pense, à ses proches et à ses collègues. Et c'est aussi une réponse de reconnaissance pour l'ensemble des forces de police et de gendarmerie qui sont intervenues et qui ont neutralisé l'agresseur, qui l'ont arrêté. Et nous avons appris qu'il était décédé de ses blessures. Et il faut évidemment soutenir la police, soutenir toutes les forces de sécurité.
C'est la deuxième agression en peu de temps du même type. Hein.
Les doter en moyens, effectivement, et ne jamais faiblir. Et il faut le faire comme le fait le ministre de l'Intérieur, comme le fait le ministre de la Justice, puisqu'ils se sont exprimés tous les deux, chacun dans leur responsabilité, en étant le plus efficace, le plus précis possible, en faisant extrêmement attention, et c'est ce que je fais à cet instant, à bien connaître les faits avant de s'exprimer et de réagir.
Ouais, et le parquet antiterroriste ne s'est pas encore saisi de l'affaire, mais le terrorisme, vous le combattez à votre échelon aussi à Bercy.
Évidemment, et nous avons mis en place avec Bruno Le Maire des nouveaux outils pour lutter contre le financement du terrorisme, lutter contre des flux, les repérer d'abord et lutter contre ces flux. Nous disposons de services extrêmement mobilisés, les services des finances publiques évidemment, de Tracfin, de la douane, pour participer à cette lutte qui est une lutte nationale.
Olivier Dussopt, la vie reprend, les cafés rouvrent, les cinémas aussi, les salles de spectacle. Beaucoup d'argent a été investi pour que ces acteurs puissent rouvrir. Beaucoup d'argent et de l'argent encore. 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires dans le budget rectificatif présenté mercredi. Pardonnez-moi Olivier Dussopt, mais ce pognon de dingue, comme on l'a appelé, cet argent magique, il vient d'où ?
Il vient de la capacité de la France à emprunter. Et il faut le dire, il faut le rappeler, nous avons cette capacité à emprunter. Et vous avez signalé que mercredi, j'aurai l'occasion de présenter un projet de loi de finances rectificatif qui va permettre de recharger, si je puis utiliser cette expression.
C'est une bonne expression,
De 15 milliards d'euros les mesures d'urgence. Le fonds de solidarité, l'activité partielle, le financement des exonérations de cotisations. Ce sont ces mesures qui, depuis mars 2020, ont permis aux entreprises de tenir face
parce
à la crise.
Parce qu'on n'a pas le choix.
Parce que, je vais y venir, mais ce sont les mesures qui ont permis de tenir. Ce sont les mesures qui permettent aujourd'hui au plan de relance d'être efficace et nous le mettons en œuvre, puisque plus de 36 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan de relance sont déjà engagés. Et à la question, parce que nous n'avons pas le choix, la réponse est oui. Oui, parce que nous avons fait un choix il y a maintenant 15 mois, le choix du quoi qu'il en coûte, qui est la seule réponse possible pour garder notre économie à flot.
Qui n'est pas forcément le choix de tous les voisins européens.
Hein. Non, mais c'est aussi ce choix-là qui a permis, par exemple, malgré une récession de 8% en 2020, de maintenir le pouvoir d'achat des Français. Il a augmenté de 0,4%. C'est ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, la Commission européenne considère que la France aura le meilleur taux de croissance de toute la zone euro en 2021 et en 2022. C'est ce choix qui nous laisse espérer un retour à un niveau de production de richesse, à un niveau d'activité économique identique à celui d'avant-crise, au premier trimestre 2022, soit un peu plus tôt que ce que nous espérions. Nous mettons en œuvre ces moyens et nous le faisons en étant aussi très clair sur un autre aspect, c'est que tant que la crise est là, tant qu'il y a des contraintes qui pèsent sur les entreprises, tant que nous devons les accompagner, nous répondons présent, et à la fin de l'épidémie, lorsque nous serons enfin sortis de ce tunnel, nous atteindrons progressivement les mesures exceptionnelles, celles du quoi qu'il en coûte. D'ores et déjà, nous avons annoncé que pour les secteurs qui n'ont plus de contraintes, qui n'ont plus de difficultés, on arrêtera progressivement. Et il faut insister sur le caractère progressif pendant tout l'été. Parce qu'il ne faudrait pas que les
Comment est-ce qu'on jauge justement ce caractère progressif ?
Par exemple, pour le fonds de solidarité, dans les secteurs qui n'ont plus de contraintes, qui n'ont plus de restrictions, nous le maintenons intégralement pour le mois de mai, et pour l'activité du mois de mai, et ensuite pour les activités de juin, juillet et août, nous tiendrons compte de la perte d'activité par rapport au chiffre d'affaires antérieur, et ça sera une prise en compte qui sera dégressive, d'abord 40, puis 30, puis 20%.
Mais selon les secteurs, selon les entreprises, où est-ce que vous mettez le curseur ?
Nous irons beaucoup moins vite et nous serons beaucoup plus progressifs pour les secteurs qui connaissent encore des difficultés. On pense au secteur S1 et S1 bis, puisque c'est désormais comme cela qu'on appelle la liste des secteurs protégés. On peut avoir des exemples. Tant que nous maintenons des jauges et donc des restrictions sur l'activité des restaurateurs ou des cafetiers, il faut les aider. Tant que nous maintenons l'obligation de fermeture des discothèques, il faut évidemment les accompagner.
Il va falloir le rembourser, cet argent, Olivier Dussopt. Vous le savez mieux que personne, la dette va atteindre 118% du PIB en 2021. C'est stratosphérique.
C'est ce que nous avions prévu, peut-être malheureusement prévu, dans la mesure où c'est un record en termes de poids de la dette par rapport au PIB. La France a cette possibilité aujourd'hui, cette opportunité de pouvoir faire face aux engagements qui sont les nôtres, de pouvoir répondre à la crise en pouvant mobiliser des moyens sur les marchés financiers. Nous le faisons encore dans des conditions de taux qui sont...
Vous avez d'ailleurs une cellule, hein, Bercy, qui ressemble à une salle de marché.
C'est l'agence France Trésor.
Voilà, qui emprunte de l'argent.
Qui emprunte et qui
mais emprunte
pour
l'État. Mais les taux ne sont plus les mêmes, on n'est plus à zéro là, on est à 0,3 à peu près.
Entre 0,2 et 0,3, les taux ont effectivement augmenté, notamment sous l'effet de la tendance inflationniste aux États-Unis, l'effet de la reprise d'activité aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et donc nous avons été prévoyants lors de l'élaboration de la loi de finances pour 2021. Certains nous avaient reproché d'être trop prudents en matière de taux. Le mouvement que l'on connaît aujourd'hui montre que nous avons eu raison.
Alors, vous allez me dire que les prévisions de croissance que vous avez citées, à peu près, vous êtes plus prudent parce que vous dites plutôt 5% au gouvernement, alors que d'autres disent 5-7
nous avons, depuis le début de la
pour
crise,
2021.
Toujours été, et depuis le début du quinquennat en réalité, toujours été prudent sur les prévisions, parce qu'il vaut mieux être prudent et avoir de bonnes nouvelles plutôt que de prendre des risques et de se retrouver dans une impasse.
Mais entendu pour la prudence, mais est-ce qu'on peut juste se baser sur des bonnes prévisions de croissance pour continuer à être optimiste? On parlait à Bercy, je me souviens de ce chiffre. On disait, fin 2020, on va avoir 800 000 chômeurs de plus, que des entreprises vont fermer. Et là, quelques mois plus tard, vous nous dites que finalement, tout va bien. On a du mal à suivre.
Attention, nous ne disons pas que tout va bien. Nous avons connu une récession en 2020 de 7,9%. C'est le chiffre actualisé par l'INSEE. C'est une récession historique. Mmh. Donc surtout, ne disons pas que tout va bien. Mmh. Par contre, effectivement, au mois de mai, au mois de juin, beaucoup pensaient que l'année 2020 serait marquée par 1 million de chômeurs en plus. C'est 300 000 de trop. Mais ça veut dire que nous avons limité la casse. Ça veut dire que les mesures que j'ai évoquées, le fonds de solidarité, l'activité partielle, indemnisées à un niveau inédit, ces mesures ont marché. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le début de l'année 2021, nous sommes dans une situation évidemment marquée par la crise, mais assez favorable. L'économie française a créé 57 000 emplois dans le secteur privé au premier trimestre. Je regarde évidemment les recettes fiscales, les recettes de TVA, les recettes d'impôts sur le revenu. Elles sont non seulement conformes à nos prévisions, mais légèrement au-dessus, très légèrement au-dessus, mais au-dessus, ce qui signifie que les choses vont un peu mieux que ce que nous imaginions.
Là, on continue je reprends votre terme de recharger. C'est sur le budget rectificatif ou sur le budget ordinaire aussi? Apparemment, il y a deux choses. Hein.
Sur les mesures d'urgence que nous avons créées l'année dernière, nous ajoutons 15 milliards d'euros pour financer justement le maintien pendant quelques temps, quelques mois, des aides et le maintien avec leur caractère dégressif. C'est ce que nous appelons la sortie progressive, parce que les efforts qu'on a fait pendant 15 mois ne doivent pas être gâchés par trop de brutalité à la sortie du système d'aide. Après, il y a ce qu'on appelle les budgets ordinaires, les budgets de tous les ministères.
Donc ça veut dire qu'on va piocher dans le budget des ministères.
Mes collègues ministres ont un certain nombre de demandes, c'est normal. Nous avons des mesures à financer. Nous avons décidé, par exemple, de maintenir l'hébergement d'urgence au même niveau que pendant l'hiver. Habituellement, ça baisse l'été. Cela représente 700 millions d'euros en année pleine. Il faut les financer. Nous avons décidé, à l'initiative du Premier ministre, d'indemniser les agriculteurs victimes du gel. Et nous mettons une première enveloppe de 350 millions d'euros. Ce à quoi nous veillons, et ce à quoi je veille, c'est ma responsabilité, c'est que sur le budget dit ordinaire, les dépenses habituelles du gouvernement, lorsque nous créons des dépenses, nous faisons aussi attention à les financer par des économies ou alors en redéployant des crédits.
Donc pour faire simple, on baisse les dépenses des ministères allouer...
Non, il faut être plus simple que ça, pardonnez-moi.
J'essaie de comprendre.
Sur les 15 milliards d'aides d'urgence, ce sont 15 milliards de dépenses nouvelles, de dépenses en plus. Sur les dépenses qui sont les financements que nous apportons sur les budgets qu'on qualifie d'ordinaires, nous les finançons, y compris en redéployant un certain nombre de mesures. Vous savez, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'un gouvernement, il y a des mesures qui sont adoptées en fin d'année et qui se mettent en œuvre moins vite que prévu, moins rapidement que prévu. Il y a un peu de sous-consommation, on redéploie pour faire en sorte que les mesures nouvelles puissent être financées sans aggraver les comptes publics.
Aucune hausse d'impôt prévue?
Aucune hausse d'impôt.
Si la majorité repasse en 2022?
Aucune hausse d'impôt et il n'y aura pas de hausse d'impôt en 2022. J'espère bien que la majorité soit reconduite en 2022.
Et si elle n'est pas reconduite?
Non seulement il n'y aura pas de hausse d'impôt en 2022, mais nous allons continuer à baisser les impôts puisque nous avons des engagements, notamment sur la trajectoire d'impôt sur les sociétés, sur l'action des taxes d'habitation. Et nous allons tenir ces engagements. À la fin du quinquennat, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros en France depuis le début du quinquennat, 25 pour les entreprises, 25 pour les ménages. Et donc, nous tenons cette ligne et nous n'augmenterons pas les impôts.
Autre question, Olivier Dussopt, est-ce que vous comptez faire évoluer les retraites avant 2022?
Alors, la question des retraites, d'abord, c'est une question essentielle d'un point de vue financier, d'une part.
J'ai bien dit avant 2022.
C'est aussi une question essentielle, j'ai bien entendu. C'est une question essentielle du point de vue social, parce que le système que nous connaissons n'est pas viable et surtout, il est plein d'inégalités, notamment pour les personnes qui font une partie de leur carrière dans le public, dans le privé ou qui connaissent la précarité. La réforme des retraites est donc nécessaire et c'est au président de la République qu'il revient le choix de l'initier soit avant 2022, soit après 2022. Donc, je ne préempterai pas...
Donc, vous ne savez pas si c'est avant 2022.
Je ne préempterai pas un arbitrage du président de la République. Ça n'est pas tout à fait le style de la maison, voyez-vous.
Parce que vous vous rendez compte que l'État-providence continue, mais principalement pour les entreprises. C'est ce qu'on entend. C'est le trend qu'on entend. Et le reste...
Et c'est peut-être l'occasion que vous me donnez de corriger cela. Lorsqu'on engage plus de 30 milliards d'euros pour financer l'activité partielle, on maintient les emplois et on maintient les rémunérations. Lorsque...
J'essaie de vous mener. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude chez les gens, ceux qu'on a appelés les gilets jaunes, ceux qu'on a appelés les bonnets rouges. Quand ils entendent les entreprises.
Et ils voient aussi ce qui a été fait, je le répète, le maintien des rémunérations et des emplois en 2020. Ça n'est pas si loin, 2020. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. Quel impôt sur le revenu nous avons baissé? Celui payé dans la première et dans la deuxième tranche, c'est-à-dire des classes moyennes, les premiers imposés. En 2020, nous avons... supprimer le troisième tiers taxe d'habitation pour 80% des Français. Ceux dont vous me parlez, ceux qui concernent l'immense majorité de la population. Nous faisons cela. C'est aussi ce gouvernement, parce que parfois la crise nous fait oublier le reste. C'est ce gouvernement qui met en place le reste à charge zéro sur les prothèses dentaires, les prothèses auditives. Donc à nous de valoriser tout cela, mais surtout levons ces inquiétudes.
Merci Olivier Dussopt d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin.